Les Années-Lumière, édition du 7 juin 2009. « 25 ans après avoir lancé le Cirque du Soleil, il s'élancera bientôt sur l'orbite de la Terre. » Bonjour, ici Chantal Srivastava en remplacement de Yannick Villedieu. Je suis en compagnie de toute l'équipe pour vous présenter cette édition du magazine d'actualité et de culture scientifique de la première chaîne. Alors tout d'abord, pour commencer, le voyage spatial de Guy Laliberté, fondateur du Cirque du Soleil, Sophie-André Blondin.
Oui, on ignore si la science y gagnera quelque chose, mais la science de la mise en marché, elle, part avec une longueur d'avance.
Et comment? Alors on restera ensuite un peu sous le soleil avec vous, Hugues de Roussan.
Oui, Chantal, et quand on parle de soleil, on parle d'énergie solaire, une source d'énergie inépuisable et verte. Et ce n'est qu'une question de temps et d'avancée technologique pour qu'elle rivalise et même bouscule les autres sources d'énergie.
Puis au courrier des Années-Lumière, nous sommes encore proches des étoiles avec une question sur la nécessité d'aller dans l'espace pour manipuler des robots. Alors pourquoi Julie Payette ne peut-elle pas le faire de la Terre, nous demande un auditeur. Et pour terminer la première heure à la chronique des Années-Lumière, Yves Gingras s'indigne de nouveaux scandales dans l'industrie pharmaceutique. Scandale qui éclabousse l'univers des journaux scientifiques. Puis en deuxième heure, Gaëlle Lucia Berdoux, destination Sherbrooke, où on fabrique des isotopes maison, fort utile quand on connaît les difficultés ces temps-ci à Chalk River.
Oui, les chercheurs du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke veulent s'affranchir du fameux technétium 99 qui manque de plus en plus depuis que la centrale nucléaire est en panne.
Je vous parlerai ensuite de ces ravageurs venus d'ailleurs qui menacent nos forêts et qui donnent bien du fil à retordre aux scientifiques qui les traquent. Et pour conclure l'émission, vous recevrez l'auteur de la semaine, Sophie-André.
Cédric Rey co-signe le livre « La physique par les objets du quotidien ». C'est aux éditions Belin pour la science.
La nouvelle est désormais confirmée. Guy Laliberté, fondateur du Cirque du Soleil, quittera la Terre à bord d'une capsule russe Soyouz le 30 septembre prochain et il sera pensionnaire de la Station spatiale internationale pendant 12 jours. Mais sa mission, une initiative privée qu'il qualifie lui-même de sociale et de poétique, n'est-ce pas, est différente, il faut le dire, Sophie-André, de celle des autres astronautes qui, eux, sont dûment entraînés.
Oui, Guy Laliberté est un touriste de l'espace. C'est le 7e touriste depuis 2001 à débourser des millions de dollars pour vivre l'aventure spatiale. Son voyage lui coûterait autour de 35 millions de dollars. Le montant exact est soumis à une entente de confidentialité entre Guy Laliberté, l'Agence spatiale fédérale russe et la compagnie Space Adventures qui organise ses voyages privés dans l'espace. Son entraînement a commencé le 10 mai en Russie avec des examens médicaux. Il se poursuit à temps plein jusqu'à son départ. Il doit subir un entraînement physique, il doit acquérir des notions de russe, il doit se familiariser aussi avec les équipements techniques, les panneaux de contrôle par exemple, à bord de la capsule Soyouz, puis ensuite à bord de la Station spatiale internationale. Il y a une partie de son entraînement qui doit se dérouler à Houston pour apprendre les rudiments de l'environnement du module américain de la station.
Vous l'avez dit, en rudiments, alors la différence entre lui et les astronautes, elle est peut-être là, Sophie.
Il y a plusieurs années de différence. Sa formation de 4 mois équivaut évidemment à une fraction de l'entraînement que subissent les astronautes et les cosmonautes professionnels. Mais comme il l'a dit lors de la conférence de presse qui annonçait son départ, c'est un événement qui a été transmis depuis la Cité des Étoiles en Russie jusqu'au siège social de l'Agence spatiale canadienne, ici près de Montréal, Guy Laliberté est conscient des limites de son rôle à bord.
Compte tenu que j'ai aucune expérience comme cosmonaute ou comme astronaute ou comme scientifique ou comme ingénieur, mon rôle... Il est celui, puis je ne suis qu'un petit dernier, qui arrive avec un équipage qui, eux, s'entraîne depuis 6 ans, 8 ans. Alors, moi, je suis là pour apprendre. Et puis, ça a été clair dans ma rencontre, parce que j'ai rencontré mon commander, Maxime, Et la première chose que j'ai dit après ça, s'être serré la main puis de s'être regardé dans les yeux, tout de suite, j'ai voulu le réassurer en disant que je suis là pour apprendre, mais qu'il peut compter sur moi, que lorsqu'on va partir ensemble, ben je vais être prêt pour l'assister, comme il me le demandera, dans la mission que j'ai exécutée. Alors, ça va faire du bien pendant un bout de temps de se laisser diriger plutôt que de diriger.
Guy Laliberté, donc, qui semble prendre plaisir à l'idée de se laisser diriger. On croirait presque à des vacances, Sophie André. Est-ce qu'on peut quand même trouver un peu de science dans son aventure?
Mais vous savez, Chantal, vous le savez d'ailleurs, la part réelle de la science dans tout le programme des vols habités, surtout dans la Station spatiale internationale, c'est déjà une question qui soulève les discussions. Alors, Guy Laliberté a dit qu'il aimerait mener des expériences sur l'eau, parce que l'eau, c'est le thème qu'il a donné à son voyage. C'est le thème de sa fondation OneDrop autour des enjeux liés à l'accès à l'eau potable. Pourtant, aucune expérience sur l'eau n'a pu être annoncée encore. Mais il est question que Guy Laliberté participe à quelques autres expériences scientifiques, au même titre d'ailleurs que tous ceux et celles qui ont voyagé dans l'espace. Qui prêtent leur corps à la science. Même les touristes de l'espace ont pris part à des expériences. Quelques exemples. Mark Shuttleworth, touriste de 2002, a participé à des projets sur le sida et sur le génome. Gregory Olson, qui était touriste de l'espace, lui, en 2005, a fourni des données sur la perception des mouvements en apesanteur. Il aurait aussi collégé des données sur les microbes dans la station spatiale. C'est un sujet qu'a repris Mme Anouché Ansari en 2006 et on la crédite aussi de collaboration sur les origines de l'anémie et les douleurs lombaires. Steve McLean dirige l'Agence spatiale canadienne. Ici, l'agence n'est pas directement impliquée dans le voyage de Guy Laliberté, mais elle cautionne ce voyage, elle l'appuie et elle compte même profiter de certaines retombées. L'agence étudie en ce moment les différentes expériences scientifiques auquel Guy Laliberté pourra être intégré.
Il est un sujet pour nous, il est un sujet où nous, on peut faire les essais médicaux avant le vol, pendant le vol et après le vol, parce qu'on a actuellement, je ne sais pas le chiffre exact, mais environ 400 personnes qui ont volé dans l'espace. Chaque occasion qu'on a d'avoir les données médicales, c'est très, très important pour l'avenir des voyages dans l'espace, sur la Lune ou sur la planète Mars, ainsi. Ça, c'est une chose qu'on va faire. Et si on, aussi, on a des expériences où il faut vérifier au niveau du système vestibulaire, et ça se peut qu'il puisse faire ces expériences aussi. Les choses comme manipuler le bras canadien, ça, ce n'est pas possible parce que ça prend des années d'apprendre tout ça. Mais je dois dire, si on donne un cours à lui pour ça, il va être bon à ça aussi. Il est un homme très intéressant. Ce gars-là a fait beaucoup de choses dans sa vie. Et je pense que ça, c'est une autre aventure qui il comprend les choses qui sont sérieuses dans ça. Ça, c'est en premier, ça, c'est la première chose. Et aussi, je pense qu'il y a un esprit pour engager l'aventure qui est, ça va être intéressant pour nous à voir aussi.
Quelle est la contribution de l'Agence spatiale canadienne?
Mais c'est totalement lui qui fait ça. C'est juste... Ce que moi, je trouve intéressant, c'est que ça fait des années qu'on fait des expériences dans des choses qui comptent, comme on a des satellites pour les ressources naturelles, on a les satellites pour l'environnement. En fait, on a les satellites qui mesurent l'eau. Et ce n'est pas bien connu qu'on fasse ça. Ce n'est pas bien connu que ce qu'on fait, c'est très aligné avec les priorités de ce jour, de nos jours. Et je pense que d'avoir la capacité de l'aligner, ce qu'il veut faire avec OneDrop et ce que nous, on est en train de faire tous les jours, ça, je trouve ça intéressant aussi, parce que c'est très important ce qu'on est en train de faire avec ça.
L'ancien astronaute Steve McLean, qui est aujourd'hui président de l'Agence spatiale canadienne, qui, si je comprends bien, Sophie André, va aussi profiter de la visibilité que lui fournit Guy Laliberté.
Oui, on ne parle pas de nouvelles avancées, de nouvelles connaissances, mais de mieux faire connaître du travail que l'Agence accomplit déjà. Par exemple, les données que Radarsat fournit sur la disponibilité de l'eau dans des régions où l'accès à l'eau est problématique. Le voyage de Guy Laliberté, ça a commencé d'ailleurs, devrait faire du bruit, faire parler de lui. Il doit donner lieu à une collaboration poétique avec Claude Péloquin. Il est question d'un événement artistique depuis l'espace, mais ça, on n'a pas beaucoup de détails. Il y a une équipe de tournage qui le suit déjà pour faire, au final, pas moins de 3 documentaires sur sa vie, son œuvre et son voyage. Aussi, son expérience est hautement médiatisée par sa fondation OneDrop, une fondation qui est très présente sur la toile, mais dont les réalisations concrètes sur le terrain sont encore limitées. Le président fondateur du Cercle du Soleil a d'ailleurs été questionné sur l'efficacité relative de dépenser des dizaines de millions de dollars pour ce voyage par rapport aux problèmes concrets d'accès à l'eau potable qu'il dénonce avec sa fondation. Voici un extrait des échanges lors de la conférence de presse qui se déroulait entre la Russie et Saint-Hubert.
Je mets déjà beaucoup d'argent dans la fondation One Drop. Je me suis déjà commis à plusieurs investissements financiers. Je paye ce voyage-là de façon personnelle. C'est à l'intérieur de mes moyens. Et puis, en plus de ça, je bonifie ce voyage-là au profit de One Drop et de ses objectifs au niveau de la sensibilisation sur les sujets de l'eau. Alors, je pense que tout le monde est gagnant là-dessus. J'ai aucun doute. Et je pense que tout ce qu'on aura comme couverture de presse internationale, qu'en bout de ligne, si on calcule l'impact médiatique qu'on risque et qu'on espère avoir, ça va valoir bien au-delà de l'argent que je vais avoir investi à faire ce voyage-là. Mais comme je dis, je suis convaincu au départ qu'on est gagnant sur tous les points de vue.
Vous avez dit tout à l'heure que votre contribution, elle était au niveau de la création, au niveau de l'émotion pour sensibiliser les gens à la cause de l'eau, au problème de l'eau. Est-ce que vous estimez que les scientifiques ont échoué dans cette mission-là? Est-ce que pour vous, c'est un constat d'échec du côté de la science pour nous sensibiliser au problème de l'eau?
Non, au contraire, je crois que le monde scientifique a bien communiqué et a bien touché des gens parce que la preuve est que si aujourd'hui je fais un voyage et je me suis joint et uni à eux dans une démarche de sensibilisation vis-à-vis de l'eau, c'est que leur mission et l'impact qu'ils ont eu sur des gens comme moi et l'effet des missions accomplies. Pour dire la solution, elle n'est pas qu'il y a seulement quelques personnes qui parlent ou qui font part de l'information qu'on détient sur la situation de l'eau dans le monde ou toute autre situation humanitaire ou environnementale, mais c'est de joindre nos voix à l'unisson et puis de créer un effet d'entraînement puis espérer qu'il y ait de plus en plus de monde qui vont se joindre à notre mouvement puis à notre conscience. Et je pense qu'au contraire, si l'échec n'est pas là, au contraire, c'est de réunir nos forces. Et puis, moi, c'est pour ça que je m'en vais là-bas.
Le prochain touriste de l'espace, Guy Laliberté, qui vit dans un univers où on parle beaucoup d'émotion, de création, de sensibilisation. Des notions dont on parle peut-être pas mal moins quand il est question de la Station spatiale internationale, Sophie André.
Effectivement, c'est nouveau dans le vocabulaire. Alors, s'il veut contaminer la station avec de la poésie, et là, vous comprendrez tout le monde que j'ai mis des guillemets au mot « contaminer », j'ai voulu savoir si ce fameux bain scientifique, bain technologique dans lequel il est déjà plongé, s'il risque en retour de contaminer certains aspects de la création au Cirque du Soleil. J'ai donc soumis la question à Daniel Lamarre, qui est président et chef de la direction du Cirque.
Sur le plan technique, je vous avoue, j'écoutais Guy tout à l'heure. J'ai un peu peur de avec quoi il va nous revenir, parce que je le connais. Je suis sûr qu'il va nous revenir avec toutes sortes de choses qu'il va avoir appris sur le plan technologique et qui risquent de nous bénéficier au Cirque du Soleil. Alors, je lui fais confiance pour ça.
Des nouveaux matériaux, des nouvelles façons de fonctionner, nouvelles technologies.
Nouvelles technologies. Les gens savent qu'au Cirque du Soleil, on fait beaucoup de recherche et de développement. Alors, je suis convaincu qu'il va nous arriver avec des trucs techniques qu'il va vouloir qu'on expérimente au Cirque du Soleil. C'est pas l'objet de la mission, mais connaissant Guy, je suis certain qu'il va nous arriver avec des nouvelles idées techniques, oui.
Daniel Lamarre, président et chef de la direction du Cirque du Soleil, qui va voir son associé partir le 30 septembre prochain si tout se déroule comme prévu, Sophie André.
Et entre-temps, changement de standing, changement de rythme de vie pour Guy Laliberté. Il habite dans ce qu'il a qualifié de 2,5 à la Cité des Étoiles. Il se rend tous les matins à l'entraînement sur une petite bicyclette.
Merci.
Au revoir.
Ici Lily Marin, journaliste au site Internet des Années-Lumière. Je vous rappelle que votre magazine d'actualité et de culture scientifique est disponible sur le web à l'adresse radio-canada.ca/lumière. Il est également en diffusion par satellite sur la chaîne Première Plus dès samedi 17h. Et vous pouvez même emporter l'émission dans votre poche en vous abonnant à la balado-diffusion sur notre site Internet. Il n'y a plus d'excuses pour manquer les Années-Lumière avec Chantal Srivastava.
Lorsque le soleil brille, nous sommes en général assez contents. Et la Terre, elle, reçoit en 40 minutes toute l'énergie dont elle a besoin pour une année entière, imaginez. Et pourtant, l'énergie solaire ne représente que 1% de l'énergie consommée dans le monde, ce qui est bien peu. Mais selon les experts, d'ici 2030, la part du solaire pourrait grimper à 11%, voire même 16% de l'énergie consommée dans le monde. Déjà, la filière, il faut le dire, a le vent dans les voiles. Prenons par exemple le marché des panneaux solaires. Il représente aujourd'hui 20 milliards de dollars et d'ici 3 ans, les observateurs estiment qu'il pourrait tripler. Mais avant d'en arriver là avec de Roussan, il faudra bien sûr continuer à faire de la recherche.
Oui, Chantal, une recherche qui d'ailleurs avance rapidement pour améliorer l'efficacité des cellules photovoltaïques qui composent, on sait, les panneaux solaires et qui convertissent la lumière en électricité. Les deux premières générations des cellules photovoltaïques ont au mieux un taux d'efficacité d'environ 20%, c'est encore trop peu, et la prochaine génération, la troisième, elle vise 40% d'efficacité et ce seront des nanocellules. Mais il faut quand même compter environ 20 ans avant que toute cette technologie soit au point. Où se situe le Canada dans la recherche de l'énergie solaire? Eh bien, disons qu'on n'est pas tout à fait dans le peloton de tête, même s'il y a quand même des choses intéressantes qui se font. Yves Poisson est spécialiste en technique photovoltaïque. Il travaille au Centre de recherche CanMet Énergie de ressources naturelles du Canada, qui est situé à Varennes.
Je dirais qu'en général, on est plutôt à la queue du peloton. On achète des produits de l'extérieur et puis tout provient surtout de l'extérieur. Bon, il y a une opportunité intéressante du point de vue des matériaux pour les cellules. Le silicium cristallin, pour fabriquer du silicium cristallin, ça demande beaucoup d'électricité, beaucoup d'hydroélectricité. Et avec nos tarifs qui sont bas ici au Québec, il y a beaucoup d'industriels qui songent même à s'implanter au Québec. On a entre autres Silicium Bécancour qui produit déjà plusieurs centaines de tonnes de silicium cristallin par année. Il y a d'autres grands joueurs comme REC, une compagnie norvégienne, qui ont annoncé cette année récemment une usine de plusieurs kilotonnes de silicium cristallin par année. Donc, de ce point de vue-là, au Québec, on a un avantage compétitif pour justement le développement, la fabrication de silicium cristallin.
Corrigez-moi si je me trompe, mais le silicium cristallin, c'est la première génération des cellules photovoltaïques. La deuxième, ce sont les couches minces. Et la troisième, ce sont les cellules basées sur la nanotechnologie. Donc, c'est pas une technologie qui est déjà dépassée?
Absolument pas. En fait, il y a beaucoup d'annonces qui sont faites par les scientifiques à chaque année. Les industries aussi, chaque compagnie mousse leur technologie. Mais quand on regarde l'évolution depuis les années 50, le silicium cristallin est toujours la technologie la plus utilisée. L'an dernier, les ventes dans le monde, c'est environ 87% du marché est pris par le silicium cristallin ou polycristallin. Et ensuite, les couches minces, elles, accaparent environ 10% du marché. Et le dernier 3% sont des technologies novatrices qui n'ont pas encore fait leurs preuves, cellules de plastique ou cellules piles électrochimiques. Donc, le silicium cristallin ne se laisse pas vaincre si facilement. Il y a beaucoup d'industries qui font la recherche pour diminuer l'épaisseur des cellules, pour augmenter leur rendement sans augmenter les coûts de fabrication. Du point de vue de la recherche au Canada, de ce qu'on voit dans les 5 dernières années, on voit un grand essor du point de vue des scientifiques. Au début, il y a peut-être en 2004, il y avait peut-être seulement 5 groupes. Et la dernière fois que j'ai fait un recensement au Canada, je comptais 43 scientifiques dans 19 universités canadiennes qui développent une multitude de technologies, que ce soit les technologies à faible coût en plastique ou qui travaillent sur le raffinement des technologies en silicium cristallin. Et certains aussi qui visent le développement de technologies qui pourraient aller jusqu'à un rendement de conversion de 40%. Les cellules multijonctions qui sont principalement utilisées en ce moment, surtout dans l'espace. Mais à l'avenir, si on peut réduire les coûts de fabrication tout en gardant des rendements très élevés, c'est clair que ce sera un avantage très important pour ces technologies.
Yves Poisson du Centre de recherche CanMet Énergie de ressources naturelles Canada à Varennes. Alors Hugues, il l'évoquait, les pistes de recherche sont multiples. Les chercheurs ont vraiment l'embarras du choix.
Oui, multiples. Par exemple, on travaille maintenant à la mise au point de cellules photovoltaïques qui pourront capter les infrarouges durant la nuit, qui actuellement sont une source d'énergie perdue et qui pourraient être ainsi récupérées.
Alors la recherche, c'est une chose, mais il y a également le coût, qui est une toute autre chose. Et actuellement, il faut le dire, Hugues, le solaire, ça coûte très, voire très, très cher. Et c'est peut-être un peu ce qui freine l'expansion.
Oui, Chantal, l'électricité solaire coûte de 3 à 7 fois plus cher que l'électricité provenant du nucléaire ou d'une autre énergie fossile. C'est trop, et c'est ce qui explique qu'au pays, on ne compte qu'une vingtaine de fermes solaires qui fabriquent de l'électricité. Et elles sont toutes en Ontario, pas une seule au Québec, qui est un peu victime de son choix hydroélectrique. Et un début de la recherche, on le devine aisément, c'est de diminuer le coût de la production de l'énergie solaire pour qu'elle puisse devenir un choix envisageable et rentable. On écoute à nouveau Yves Poisson.
Au Canada, le coût du solaire diminue d'environ 8 à 10 % par année. En 2000, le coût d'un panneau solaire revenait à environ 11 $ le watt. Lorsqu'on a fait notre dernière revue du marché canadien, en 2008, ce même watt photovoltaïque était rendu à 4 $ le watt. Donc, il a diminué d'un facteur 2,5 en l'espace d'environ 8 à 10 ans. Et ça, on s'attend à ce que le coût continue de diminuer à mesure que les quantités de fabrication augmentent. Et à chaque fois qu'on produit une quantité X de panneaux solaires, on produit la prochaine quantité X à 80 % du coût initial. Et les usines deviennent de plus en plus grandes. Il y a de grands joueurs qui sont dans le domaine. Il y a une compétition féroce.
Est-ce que vous avez évalué à partir de quel montant l'achat d'un panneau photovoltaïque va devenir rentable pour un citoyen? Sa maison, sans subvention.
Sans subvention. Les industries visent la production autour de 1 $ le watt. Alors, je vous ai dit un peu plus tôt qu'on était autour de 4 $ le watt. Donc, il y a quand même une marge à franchir. Ceci étant dit, certains marchés seront rentables plus rapidement que d'autres. En Californie, par exemple, les experts entrevoient la rentabilité en 2013. Maintenant, au Québec, bon, on a moins de soleil qu'en Californie. Notre coût d'électricité n'est pas de 20 sous le kilowattheure, mais plutôt autour de 6 à 6 sous le kilowattheure. Donc, probablement que ça viendra peut-être à l'horizon 2020-2030. Mais néanmoins, ce qui est certain, c'est qu'on se dirige vers ce qu'on appelle le point de parité avec le réseau. Et à ce moment-là, on peut s'attendre à une expansion très rapide. C'est là où ça devient intéressant, bon, pour différentes agences, différents départements du gouvernement, d'investir dans l'efficacité énergétique, d'investir dans les énergies renouvelables, parce qu'en fait, l'énergie solaire, les énergies renouvelables en général, plus on produit d'électricité, mieux on se porte. Vous savez, on peut exporter cette électricité-là et la pollution qui est générée en Nouvelle-Angleterre ou qui sont générées dans les provinces voisines, l'Ontario ou la Nouvelle-Écosse, cette pollution-là ne connaît pas de frontières. On la retrouve au Québec. Alors, plus on exporte de l'électricité verte, en fait, mieux tout le monde se porte.
Yves Poisson de CanMet Énergie à Varennes. Alors, Hugues, tout ce qu'on vient d'entendre, je ne suis pas vraiment convaincu que ça incite les gens qui nous écoutent à convertir leur maison, par exemple, au solaire.
Non, pas vraiment avoir aujourd'hui une maison solaire. Il faut être presque un croyant et il n'y a pas beaucoup de croyants, Chantal. On retrouve moins de 150 maisons solaires en Ontario et au Québec, à peine une dizaine. On est très loin des 400 000 maisons solaires au Japon. Il faut dire, Chantal, que les maisons solaires coûtent cher, et surtout si on veut avoir la totale, c'est-à-dire une maison qui produit autant d'énergie qu'elle n'en consomme, soit une consommation d'énergie nette zéro. Pour y arriver, il faudrait ajouter au bas mot 50 000 $ et même davantage au prix de la maison. Mais on peut déjà aujourd'hui améliorer l'efficacité énergétique d'une maison sans pour autant vider son porte-monnaie en utilisant ce qu'on appelle l'énergie solaire passive. Une maison bien orientée par rapport au soleil, avec une bonne isolation et de bonnes fenêtres pour conserver la chaleur à l'intérieur, permet de réduire la facture de chauffage d'au moins 50 %. André Fauteux est rédacteur du magazine La Maison du 21e siècle. Il possède une maison solaire dans les Laurentides. Je l'ai rencontré chez lui.
Dans nos maisons, on va surtout vouloir maximiser les gains solaires, donc avec les vitrages, et réduire les pertes de chaleur. Donc, il y a plusieurs façons de réduire les pertes de chaleur par les fenêtres. Un, il y a l'étanchéité. Deux, il y a un gaz, par exemple l'argon, qui est plus isolant que l'air qu'on va injecter entre les vitrages. Il y a les intercalaires isolants, c'est qu'on va mettre un plastique entre les vitrages sur le pourtour au lieu d'aluminium. L'aluminium perd beaucoup plus de chaleur. Et il y a ces fameuses pellicules à faible émissivité qui donc vont réduire seulement un tout petit peu la lumière et la chaleur solaire, mais qui vont réfléchir 80-90% des ondes infrarouges que les corps dans la maison et les objets vont perdre. Donc, beaucoup moins de pertes de chaleur. Et ces vitrages-là, c'est vraiment devenu la norme aujourd'hui. Ce n'est pas encore obligatoire, mais ça devrait devenir la norme Nouveau Climat dans la nouvelle construction, qui est une norme volontaire de l'Agence d'efficacité énergétique et qui permet d'économiser 25 % dans les maisons neuves. Cette norme-là devrait devenir obligatoire en 2011-2012. Donc, ces vitrages-là vont être utilisés dans toutes les nouvelles constructions.
Est-ce qu'on peut déjà parler, avec ces fenêtres-là, d'énergie solaire?
À elles seules, les fenêtres haute performance vont réduire les coûts de chauffage d'une maison de 10 à 15 %. Aussi, justement, en permettant de réduire les pertes de chaleur, ça devient des panneaux solaires. Les meilleures fenêtres haute performance, qui ont, par exemple, un quart dans fibre de verre, elles vont perdre moins de chaleur au cours d'une saison de chauffage, au total, que tous les gains solaires gratuits qui pénètrent à travers les vitrages. Donc, il y a un gain net d'énergie pour les meilleures fenêtres.
Autrement dit, la chaleur qui rentre dans la maison sera supérieure à la chaleur qui va sortir de la maison grâce à ces fenêtres-là.
Oui, absolument. Ça devient des petits panneaux solaires. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment les orienter face au soleil.
André Fauteux, qui lui a fait la conversion au solaire. Alors, Hugues, est-ce qu'il y a des mesures pour inciter des gens comme lui à se convertir?
Oui, par exemple, les réseaux électriques peuvent racheter les surplus d'énergie qui proviennent des maisons solaires. Au Japon, en Allemagne, les réseaux électriques rachètent les surplus à 4 fois le prix du marché. Même chose en Ontario, où on rachète à 4 fois et peut-être ça va monter à 8 fois. Au Québec, malheureusement, Hydro-Québec ne rachète qu'au prix du marché seulement.
Alors, on associe souvent l'énergie solaire aux maisons, aux bâtiments, mais il faut peut-être dire que c'est un domaine qui est beaucoup plus vaste, Hugues.
En fait, quand on parle d'énergie solaire, on parle aussi de multiples applications qui ne sont limitées que par l'imagination, le prix et le développement technologique. En fait, on peut déjà voir dans notre quotidien des applications pratiques de l'énergie solaire et ce n'est que le début. Umaru Savadogo est professeur à l'École polytechnique de Montréal.
On voit de plus en plus d'ailleurs les parcs-mètres à Montréal qui utilisent des panneaux solaires. On voit aussi au niveau en fait du chauffage domestique qu'il y a des incitations au niveau gouvernemental, que ce soit fédéral ou provincial. Dans un souci d'économie d'énergie et diversification, ce sont des applications qui contribuent de façon importante à augmenter l'efficacité énergétique. Et puis, d'autre part, dans des applications au niveau industriel, on voit de plus en plus en fait des secteurs qui émergent. Vous avez parlé tout à l'heure justement des vêtements. Avec des panneaux solaires, parce qu'avec les technologies de couches minces, on peut fabriquer des cellules sur du plastique comme support. Et en ce moment-là, ça peut être intégré au niveau du design dans beaucoup d'approches pour l'autonomie individuelle, pour les téléphones cellulaires et puis d'autres équipements que les utilisateurs peuvent utiliser.
Ou même les ordinateurs, les...
Oui, aussi les ordinateurs portables, qui est un domaine qui est beaucoup en développement. Bon, dans le domaine des calculatrices, on le sait déjà depuis les années 70. Domaine des montres aussi, on le sait déjà depuis les années 70. Tout va dans le sens où la petite autonomie individuelle là, va être couverte par le solaire parce que la technologie évolue très, très, très vite.
Umaru Savadogo, qui est de l'École polytechnique de Montréal. Alors, pour conclure, Hugues, est-ce qu'il y a une baisse des coûts en perspective?
Oui, Chantal, il va y avoir une baisse des coûts au cours des prochaines années, notamment en raison de l'arrivée d'un nouveau joueur sur le marché mondial des cellules photovoltaïques. Et ce nouveau joueur, c'est la Chine.
Évidemment. Merci, Hugues. Écoutez les Années-Lumière, le magazine d'actualité de culture scientifique de la première chaîne de Radio-Canada. À venir, en deuxième heure, la lutte aux ravageurs exotiques qui menacent nos forêts.
Le plus inquiétant actuellement, parce qu'il est déjà chez nous, et que les êtres humains participent à sa propagation, c'est la grêle du frêne. Cet insecte-là travaille très fort, se reproduit beaucoup et pourrait faire disparaître les frênes du territoire canadien si on ne prend pas des moyens pour l'en empêcher.
L'heure du facteur, et voici la question de la semaine.
Ici Brian Hurst à l'appareil. J'ai une question qui pourrait se poser à Julie Payette parce qu'elle est supposée de faire 2 semaines de travail sur la station orbitale. Je me demande pourquoi une personne à bord de cette station orbitale sera chargée de la manipulation de toutes les grues, de tous les bras robotiques japonais et canadiens. Pourquoi les travaux de guidage ne soient pas consacrés à une personne qui se trouve dans un centre de contrôle, soit en Russie, soit en Europe, soit au Canada, parce que la télémétrie est très, très rapide et très fiable. Merci beaucoup. À la prochaine.
Alors, effectivement, au cours de sa mission, qui commence très, très bientôt, Julie Payette devra utiliser 3 bras robotisés, le bras canadien qui est sur la navette Endeavour, le bras japonais Kibo qui est sur la plateforme de recherche du même nom et l'autre bras canadien, le Canadarm2, qui lui est arrimé à la station spatiale et ça se fera lors de 2 sorties dans l'espace prévues pour remplacer des batteries. Des opérations délicates, difficiles à contrôler depuis la Terre. Gaëlle Lucia Berdou en a parlé avec le superviseur des contrôleurs de mission à l'Agence spatiale canadienne, Mathieu Caron.
C'est très difficile, c'est presque impossible à faire à partir du sol parce que tout au long de la marche de l'espace, l'astronaute qui prend place au bout du Canadarm2 donne des directives à l'opérateur qui contrôle le bras robot et dit, par exemple, « Oh, j'ai besoin d'aller 10 cm à gauche ou peux-tu me pencher d'environ 15 degrés? » Et ça, ce ne serait vraiment pas pratique de le faire à partir du sol.
Pourquoi? Parce que ça prend trop de temps entre la commande et son application?
Et pour 2 raisons. Évidemment, ça prendrait un petit peu plus de temps à partir du sol. On a quand même un délai d'environ de l'ordre d'environ 6 secondes. Mais non seulement ça, c'est qu'on doit toujours être prêt à interrompre la manœuvre si quelque chose d'inattendu survenait. Comme par exemple, l'astronaute dit « Oh non, je voulais pas dire à gauche, je voulais dire à droite. » Donc, on va pouvoir envoyer la commande très rapidement. Et le risque posé par l'interruption de la communication, finalement, si on perdait contact avec la station spatiale, c'est un risque qu'on ne veut pas prendre. Donc, l'astronaute à bord de la station spatiale n'est pas sujet à ce risque. Donc, c'est extrêmement important parce que non seulement durant les marches de l'espace, mais durant tout le vol d'une navette, où l'horaire est tellement chargé qu'on veut vraiment capitaliser sur le maximum du temps des astronautes et leur permettre de continuer à décharger la navette spatiale, faire le maximum d'opérations sur la station spatiale et après ça, permettre à Endeavour de quitter. Entre les missions de la navette, on a beaucoup plus d'opportunités de contrôler le Canadarm2 à partir du sol parce que justement, on a plus de temps. On n'est pas limité par les 2 semaines de la mission de la navette.
Alors, ces navettes, justement, éventuellement, sont vouées à cesser de transporter des astronautes vers l'espace. Qu'est-ce qui se passerait si on ne pouvait plus envoyer quelqu'un comme Julie Payette s'occuper d'utiliser ses bras?
La station spatiale conservera son équipage, finalement, qui va être changé environ à tous les 6 mois jusqu'en 2016 et peut-être même plus tard. Après l'émission de la navette, une fois que la navette va avoir pris sa retraite vers la fin 2010, mais on se concentrera plus sur l'envoi de fusées russes Soyuz, comme par exemple, comme on a pu voir la semaine dernière avec l'astronaute canadien Bob Thirsk. Mais, justement, comme on veut vraiment permettre aux astronautes de se concentrer sur la principale raison d'être de la station spatiale, qui est l'étude scientifique en état d'apesanteur, ben nous, à partir du sol, on développe de plus en plus les méthodes à partir du sol afin de contrôler les bras robotiques en orbite à partir du sol. Au début, on pensait que les astronautes seraient les principaux opérateurs, mais on a découvert qu'avec le Canadarm2, avec Dextre maintenant, que souvent il y a beaucoup d'opportunités pour les contrôleurs de mission au sol de finalement d'aider les astronautes en prenant de plus en plus une grande part lors des opérations robotiques. Comme par exemple, si on regarde les opérations de Dextre, dont la tâche principale va être de procéder à l'entretien de la station spatiale, bien Dextre sera principalement opéré à partir du sol par des contrôleurs de mission.
Merci beaucoup, M. Caron, pour ces explications.
Ça me fait plaisir.
Gaëlle Lucia Berdou, qui s'entretenait donc avec Mathieu Caron, superviseur des contrôleurs de mission à l'Agence spatiale canadienne. Et je prends quelques secondes pour vous dire que vous pouvez en tout temps nous soumettre vos questions de science. En nous contactant par téléphone dans la grande région de Montréal, vous composez le 514-597-6166, 514-597-6166 ou de l'extérieur, le numéro sans frais 1-800-752-9050, 1-800-752-9050. chronique des années-lumière maintenant cette semaine avec Yves Gingras, qui est historien, pour nous parler d'une histoire de science fort troublante. Alors, Yves, un nouveau scandale qui secoue l'industrie pharmaceutique, comme si on avait besoin de ça.
Oui, effectivement, vous avez raison de dire que c'est un nouveau, parce que les relations compliquées entre ce qu'on pourrait appeler la jungle de l'industrie pharmaceutique dans ses relations avec la recherche scientifique, donc la recherche biomédicale, sont complexes. Et on peut dire que depuis une vingtaine d'années, grâce entre autres aux enquêtes des journalistes, mais aussi grâce aux poursuites judiciaires qui souvent nous donnent accès à des documents
bien
qui
sûr.
Jusque-là étaient confidentiels et secrets, mais aussi quand même, il faut le mentionner, aux recherches des sociologues des sciences depuis vingtaine, nous ont montré que ces relations entre l'industrie pharmaceutique et le monde de la recherche posent un bon nombre de problèmes. Je vais en nommer quatre en ordre croissant qui nous montrent qu'on avance de plus en plus vers des choses assez surréalistes.
Et de plus en plus graves aussi.
Et de plus en plus graves. Que la recherche, les recherches cliniques qui sont publiées sur les médicaments nouveaux sont souvent biaisées en faveur des résultats positifs. Deuxièmement, que ces biais, d'ailleurs, sont fortement liés au fait que ces études sont presque toujours subventionnées par les industries pharmaceutiques elles-mêmes. Trois, que les résultats négatifs sont rarement publiés. Ce qui a une conséquence grave, c'est que ça fausse les méta-analyses, et comme vous le savez, sont fondées sur le fait qu'on prend toutes les publications sur les résultats et on refait une analyse statistique. Or, cette méta-analyse présuppose que l'échantillon est représentatif. Or, si vous avez éliminé tous les résultats négatifs, on ne peut pas faire une méta-analyse.
Vous créez un biais, donc, dans l'analyse.
Il y a un biais structurel. Ouais. Dernier point qu'on a appris au cours des cinq dernières années de façon prouvée encore là grâce à des poursuites et des enquêtes, que des scientifiques sont souvent payés pour signer des articles qu'ils n'ont pas écrits et qui sont rédigés, en fait, par le personnel des compagnies pharmaceutiques qui cherchent des prête-noms prestigieux et qui les payent pour se faire.
Et cela alors qu'on a l'impression parfois qu'on signe une déclaration de conflit d'intérêt, mais ce que vous nous dites, c'est que ce n'est pas toujours le cas. Et ce qu'il prouve, c'est cette nouvelle histoire qui a fait surface en Australie lors d'un procès pour l'usage du Vioxx, la mise en marché du Vioxx, le fameux anti-inflammatoire mis en marché par la compagnie Merck.
Effectivement, c'est le journal The Australian, le 9 avril, qui, tout en présentant le fait qu'un individu a poursuivi la filiale australienne de Merck, pour dommages et intérêts à cause du Vioxx, qui, comme on sait, a été retiré du marché en 2004, mais un très grand nombre de poursuites qui continuent. Donc, dans le cadre de ce procès au civil, des experts ont montré que, entre 2000 et 2005, la compagnie Elsevier, en relation avec des compagnies pharmaceutiques, dont une était Merck, publiait ce qu'on peut appeler des pseudo-revues savantes, dont celle qui était incriminée dans le cas de l'Australie était le Australasian Journal of Bones and Joints, dans lequel paraissaient des articles qui, au fond, faisaient la promotion du Vioxx, qui, comme on le sait, est un anti-inflammatoire pour l'arthrite, et aussi du Fusamax contre l'ostéoporose. Or, le problème, c'est que ces pseudo-revues savantes avaient toutes les apparences d'une revue, alors que c'était, au fond, des infopubs.
Parce que Elsevier, c'est une institution qui, en apparence, est renommée et fiable.
Exactement. Donc, le médecin qui reçoit une revue qui est sous l'imprimatur, si on peut dire, d'une grande compagnie internationale comme Elsevier, qui publie, surtout dans le domaine médical, un très grand nombre de revues, devait se dire, ce que je lis sous les yeux, c'est une étude scientifique, par des savants qui ont fait des travaux, qui ont eux-mêmes écrit et testé les choses, et donc je peux y faire confiance. Donc, ce qui a été démontré, c'est que ça est une fraude, et Elsevier a admis que ça s'est passé entre 2000 et 2005, mais bien sûr, après enquête, nous disent que ces revues-là, maintenant, ne sont plus sous l'imprimatur de Elsevier, et qu'il y en avait en fait six. Elsevier, par contre, refuse de donner le nom des compagnies qui subventionnait les autres revues. Le journal australien, si on peut dire, ou australasien de cardiologie, de pharmacie clinique, de médecine cardiovasculaire, de pratique générale et de neurologie. Donc, on voit qu'il y avait derrière ça sûrement encore 4 ou 5 ou 6 compagnies, soit de neurologie, soit de cardiologie, qui faisaient publier des pseudo-articles, pseudo-savants, que les médecins ensuite lisaient comme de la véritable découverte qui faisait la promotion de médicaments.
Est-ce que ça, on parle de l'Australie dans ce cas-ci, Yves, mais est-ce que ça pourrait se passer ailleurs également?
Bon, bien sûr, dans le cas, les preuves actuellement sont que ça existe en Australie. Bien sûr, maintenant, peut-être que des journalistes pourraient faire enquête pour découvrir, on va peut-être découvrir que d'autres revues auxquelles on n'a pas porté attention et qui seraient aussi, au fond, des apparences de revues savantes. C'est des formes d'infopub très sophistiquées parce que pour le médecin moyen et même pour les chercheurs, toute la forme formelle, la présentation a les allures. Il y a quelques références, on parle d'essais review, on parle de revues et on parle de références et de noms d'auteurs, pas très connus souvent, mais qu'on considère qu'ils existent parce que l'imprimatur d'une grande revue. Et ce qui est intéressant aussi qu'ils ont montré, c'est que ces revues-là n'étaient pas indexées dans Medline. Or, Medline est la référence pour les revues savantes et qu'il n'y avait même pas de site web de la revue. Donc, on voit que ces 6 revues-là étaient bidons.
Mais comment Elsevier peut entrer dans ce jeu-là? Parce que c'est lourd de conséquences pour la valeur de ce qui est publié dans les revues, la perception aussi qu'on a de la valeur des études révisées par les pairs et la confiance qu'on a dans ce qui est publié. C'est quand même majeur.
Bien sûr. La réponse qui était prévisible, c'est de dire oui, on a fait enquête, ça s'est passé en 2000 et 2005, ça n'existe plus aujourd'hui. Donc, c'est ce que les compagnies font toujours, bien, ce qui est normal, c'est du damage control, et ils vont dire, oui, on a fait attention, ça s'est passé uniquement en Australie, on trouve ça scandaleux, on s'en excuse, etc. C'est la rhétorique habituelle. Pour nous, ce qui est important de comprendre, c'est que derrière ça, il y a un phénomène beaucoup plus profond, qui est ce qui est remis en cause par ces fraudes-là. Si on avait montré qu'il y a eu, disons, comme ça arrive dans les fraudes, une pseudo-découverte d'une planète, c'est pas trop grave, c'est une fraude scientifique de dire que j'ai découvert une planète, qu'elle n'existe pas, mais ça n'a pas de conséquences sociales. Dans le domaine biomédical, on est dans un autre ordre d'idées. On a affaire là à des choses qui ont des conséquences. Ces revues-là sont lues par les médecins et c'est sur la base de leur lecture qu'ils choisissent de prescrire le médicament A ou le médicament B.
Avec l'incidence économique qu'on sait par la suite pour les compagnies pharmaceutiques.
Bien sûr, et leur choix, c'est de lire des revues, justement, prestigieuses, auxquelles ils font confiance. Le mot clé dans tout ça, c'est qu'on vient ici d'ébranler de façon fondamentale la confiance des chercheurs. Et je pense qu'en conclusion, il vaut la peine de citer une médecin qui a été pendant 20 ans sur le New England Journal of Medicine, qui fait partie des journaux les plus connus. Et elle écrit dans le New York Review of Books du 15 janvier 2009 la phrase suivante. « Il n'est tout simplement plus possible de croire l'essentiel des recherches publiées ni de se fier au jugement de son médecin de famille ou des manuels médicaux qui font autorité. Je ne prends aucun plaisir à cette conclusion et ne l'ai formulée qu'avec réticence après 20 ans passés au sein de la rédaction en chef du New England Journal of Medicine. » Donc, cette petite histoire nous montre qu'on va avoir de la difficulté maintenant à faire confiance à ce qu'on lit dans les revues savantes. Chat échaudé craint l'eau froide.
Et cette phrase de Marcia Angel a été écrite avant ce que vous venez de nous raconter.
Exactement. Donc, en janvier 2009, quelques mois avant, elle qui était déjà désabusée, maintenant, je pense qu'elle va conclure que le système est remis en cause de façon importante. On peut dire que la chute de la confiance fait que tout l'édifice de la recherche biomédicale pourrait s'écrouler si on continue des fraudes de cette ampleur.
Bien, merci de nous avoir éclairé là-dessus. Merci beaucoup, Yves Gingras. Je rappelle que vous êtes historien et sociologue des sciences et chroniqueur aux Années-Lumière, bien sûr. Merci.
Ça fait plaisir.
C'est donc la fin de la première heure. Quelques secondes pour vous dire que ce soir, Découverte vous propose entre autres sujets la physique de Goliath, le super manège de montagne russe de la Ronde de Montréal. Ce soir, 18h30 à la télé de Radio-Canada. Mais d'ici là, restez des nôtres. On vous revient avec la suite des Années-Lumière après le bulletin de nouvelles. À tout de suite. Les Années-Lumière, deuxième heure. Rebonjour, rebienvenue, ici Chantal Srivastava pour vous présenter la suite de votre magazine d'actualité et de culture scientifique. Au menu de cette deuxième heure, un nouvel isotope radioactif d'imagerie médicale pour mieux traverser la crise
causée par les problèmes à la centrale nucléaire de Chalk River. Également, les ravageurs exotiques, ces envahisseurs venus d'ailleurs qui s'attaquent à nos forêts et pourraient même causer la perte de certaines espèces d'arbres, avec aussi bien sûr le petit journal de la science. Et pour conclure, l'auteur de la semaine, Cédric Ray, qui co-signe La physique par les objets quotidiens, un livre qui raconte en quoi la vie d'aujourd'hui exige de nous un minimum de culture physique. On apprenait cette semaine que la fermeture du réacteur nucléaire de Chalk River en Ontario pourrait durer encore plus longtemps que les 3 mois prévus. Cette fermeture, provoquée par une fuite d'eau lourde, a plongé le monde médical dans une nouvelle crise des isotopes. Chalk River, c'est le réacteur qui fournit près de la moitié des isotopes médicaux les plus utilisés dans le monde. Donc, cette fermeture force aussi les hôpitaux à faire preuve de débrouillardise pour continuer à traiter leurs patients. Et c'est le cas notamment à Sherbrooke, Gaëlle Lucia Berdou.
Oui, au Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, où on se tourne vers des solutions de remplacement. Les chercheurs, en fait, ont voulu, dès la première pénurie du fameux technétium 99, cette pénurie, c'était il y a 1 an et demi, trouver autre chose. Alors, un petit rappel, le technétium 99, c'est un produit radioactif qui est utilisé en médecine nucléaire pour établir, en fait, des diagnostics, notamment dans des cas de cancer. Comment ça fonctionne? Bien, on l'injecte au patient et il se fixe, si on veut, dans l'organisme. Et ensuite de ça, on peut le suivre, cet isotope radioactif, à l'aide d'appareils d'imagerie qui vont venir détecter ces molécules dans le corps humain. Alors, ça sert, par exemple, à détecter des tumeurs, mais il existe aussi d'autres isotopes ou d'autres traceurs, si vous voulez. Et selon le type de traceur qu'on utilise, bien, on réussit à cibler différentes pathologies, même avoir des organes différents et à établir des diagnostics, parce que différents produits se comportent, bien sûr, différemment dans le corps humain.
Et c'est donc là-dessus que mise l'hôpital de Sherbrooke, Gaëlle, sur des molécules différentes?
Sur une molécule différente et sur une technologie différente, parce qu'au lieu d'utiliser un appareil d'imagerie conventionnel, au CHU, ils utilisent un appareil de tomographie par émission de positrons, un TEP. Le TEP, grosso modo, c'est simplement un appareil différent qui lie des molécules différentes que les machines qu'on utilise pour l'instant dans les hôpitaux. Par exemple, le TEP ne détecte pas le fameux technétium 99. Mais ça permet au Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke de se tourner vers un traceur différent et c'est le fluorure de sodium qui, lui, est détecté par les caméras TEP. Le fluorure de sodium, c'est un isotope qui sert à faire des examens des os. On sait que les os aiment bien le fluor, donc ce fluor vient être métabolisé par les os et on réussit à le retracer dans le corps. Et ce fluorure de sodium, il est fabriqué au Centre hospitalier de Sherbrooke. On n'a pas besoin d'une centrale nucléaire. Il est fabriqué dans un cyclotron. C'est un véritable accélérateur de particules où on transforme littéralement de l'oxygène en fluor radioactif pour faire ce fluorure de sodium. Mais ce n'est pas une invention des chercheurs de Sherbrooke. En fait, c'est une molécule qui est connue depuis une quarantaine d'années que les chercheurs ont, si on veut, remise au goût du jour. J'en ai parlé avec le docteur Jean Véraud, qui est chef du service de médecine nucléaire au Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke. Et on va entendre d'abord le docteur Éric Turcotte, qui dirige là-bas le Centre d'imagerie moléculaire.
En 1960, la technologie n'était pas aussi avancée qu'elle l'est aujourd'hui. Les appareils pour produire l'atome radioactif étaient que sur certains sites universitaires hautement spécialisés. Donc, l'atome était difficilement accessible et par la suite, la technologie ne permettait pas d'avoir des images d'une très, très haute qualité comparativement à un compétiteur qui venait d'arriver, qui sont les gamma caméras actuelles qu'on utilise, qui utilisaient d'autres sortes d'isotopes radioactifs, dont le technétium qui est en crise actuellement, et qui donnait des images d'une qualité tout aussi belle, en coûtant moins cher et en étant beaucoup plus accessible. On pensait même déployer ces appareils-là dans les centres hospitaliers. Donc, le technétium et les appareils gamma avaient pris une bonne part du marché. Le temps a passé, les appareils se sont améliorés, les coûts ont baissé, et maintenant, si on regarde l'histoire, depuis environ 1990-1996, c'est possible d'avoir des appareils pour faire des images avec des émetteurs de positrons dans des centres hospitaliers pour faire des images d'une qualité exceptionnelle. C'est quand même des appareils qui sont très coûteux. On parle des appareils qui varient entre 1,5 à 2,5 millions juste pour faire des images. Et si, à travers ce coût-là, on calcule le coût pour fabriquer les isotopes et l'infrastructure, on parle de structures qui varient entre 5 à 10 millions au total juste pour faire un seul type d'imagerie TEP.
Docteur Jean Verroux, je me tourne vers vous. Vous êtes le chef du service de médecine nucléaire ici au Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke. Qu'est-ce que ça vous a permis de faire ou de rattraper comme temps qui allait être perdu en termes d'examens médicaux, l'utilisation de ce fluorure de sodium?
Si on parle spécifiquement du fluorure de sodium, ça a permis, par exemple, au cours de cette semaine-ci, d'éviter de reporter plus d'une trentaine d'examens qu'on n'aurait pas pu faire, des examens osseux qu'on n'aurait pas pu faire autrement à cause du contexte de pénurie. Donc, ça a évité un impact sur notre clientèle.
Concrètement, comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a une différence entre utiliser du technétium 99 et utiliser du fluorure de sodium pour un examen?
En fait, on va obtenir le même type d'information, c'est-à-dire une image du métabolisme osseux. Par contre, cette image-là va être d'une qualité nettement supérieure en termes de résolution, en termes de capacité de détection également, pour pratiquement les mêmes aspects pratiques au point de vue du patient, c'est-à-dire une simple injection intraveineuse, comme ce serait le cas pour un examen conventionnel avec du technétium, un délai d'attente qui est même plus court qu'il ne serait entre l'injection et la prise des images.
Pourquoi c'est plus court?
Parce que le délai d'attente est de l'ordre de 30 à 45 minutes après l'injection du fluorure de sodium pour pouvoir faire des images adéquates en TEP, alors qu'en médecine nucléaire conventionnelle avec le technétium, il faut attendre au moins 2 heures puisque le traceur reste en circulation un peu plus longtemps avant de se fixer au niveau des os.
Alors Gaëlle, est-ce qu'on a trouvé preneur pour cette solution de remplacement basée sur le fluorure de sodium?
Bien, ça commence à être populaire, d'autant plus que le technétium disponible qui reste en ce jour en circulation devient de plus en plus cher. Les fournisseurs ont commencé à augmenter leur prix et on sait que comme c'est un produit qui a une durée de vie relativement limitée, on ne peut pas le stocker. Donc des hôpitaux ailleurs au Québec ont montré un intérêt à essayer le fluorure de sodium qui est fabriqué à Sherbrooke. Trois-Rivières, l'hôpital de Trois-Rivières en a déjà reçu. Le CHUC à Québec, Sainte-Justine à Montréal et aussi l'hôpital de Rimouski ont commencé des démarches auprès de l'hôpital pour éventuellement en recevoir.
Alors dites-moi Gaëlle, est-ce que les examens qu'on faisait auparavant avec du technétium peuvent être faits avec du fluorure de sodium?
Non, pas tous. En fait, il sert, comme on l'a dit, plutôt pour des examens osseux, ce qui représente quand même, il faut le dire, 1/5 à peu près des examens diagnostiques qui sont faits à Sherbrooke. Et puis l'autre limite, c'est évidemment les fameux appareils TEP qui sont essentiels pour détecter le fluorure de sodium et ce ne sont pas tous les hôpitaux qui en ont. À Sherbrooke, il y en a depuis une dizaine d'années maintenant. Ils servent surtout à identifier des métastases de cancer à l'aide d'un autre isotope du fluor qui, lui aussi, est fabriqué sur place. Et ça permet d'avoir des images d'une qualité franchement remarquable que m'a montré le docteur Turcotte.
Fait que ici, c'est un exemple d'une personne qui avait eu, dans un contexte de mélanome, donc une tumeur de la peau. Et on nous demande de rechercher est-ce qu'il y a d'éventuelles métastases. Donc ça, c'est la question qu'on se fait poser au moins une vingtaine de fois par jour, 5 jours sur 7 et 50 semaines par année, de trouver les métastases. Donc la technique TEP, la beauté, c'est que c'est une technique d'imagerie qui n'est pas incorporelle. Donc, on peut localiser facilement la métastase, qu'elle soit au niveau du cou, au niveau d'une jambe. On possède les informations dans nos images. Donc, ici, vous avez la portion tomodensitométrique, donc, ce qui nous donne une information anatomique du corps humain. Et on voit très bien les intestins, les reins et les structures osseuses. De façon logicielle et synchronisée, l'appareil, ici, la station de visualisation, nous montre l'acquisition de qui a été fait ici au FDG, donc le fluorodéoxyglucose, qui est un analogue du sucre. On sait que le cancer a besoin plus de sucre qu'une cellule normale pour survivre, particulièrement parce que le cancer a besoin de se diviser, la cellule cancéreuse veut se diviser, et aussi les cellules cancéreuses sont souvent dans un endroit qui est pauvre en oxygène, donc hypoxique, qui augmente encore d'autant plus sa consommation en sucre. Donc notre but, c'est justement d'attraper les tumeurs en essayant de trouver quelle cellule à l'intérieur du corps humain consomme plus de sucre que les cellules avoisinantes. Et c'est comme ça que ça nous permet de localiser la tumeur. Et ici, on peut voir facilement des petits ganglions qui sont très captants, juste derrière le genou, qui sont très intenses. On le voit comparativement au reste des tissus avoisinants. Et lorsqu'on regarde sur l'imagerie anatomique, on voit bel et bien un petit ganglion. Donc, sur le cas ici, c'est évident qu'il y a une métastase qui est juste derrière le genou, donc un endroit qui est un peu hors du commun. Mm-hmm. Mais que si on n'avait pas eu le TEP scan pour le localiser, je connais peu de personnes qui auraient pensé aller chercher derrière le genou pour trouver une métastase de mélanome.
Éric Turcotte du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke. Alors Gaël, on obtient de meilleures images plus rapidement. Pourquoi on ne fait pas tout simplement tous les examens de médecine nucléaire avec le TEP?
Mais d'abord, il reste des examens qui sont quand même plus concluants avec l'imagerie conventionnelle, dite au rayon gamma. Certains examens des fonctions organiques, par exemple. Mais surtout, ça reste très cher, le TEP. Mais si la rareté des isotopes comme le technétium-99 se poursuit, si les centrales en Hollande, en Afrique du Sud et aussi en Ontario continuent de tomber en panne ou de nécessiter des mises à jour, le milieu médical va peut-être devoir recourir de plus en plus à cette technologie-là. On va entendre là-dessus le docteur Jean Véraud.
La technologie TEP, elle existe. Elle pourrait être utilisée davantage. Tant qu'il y a des alternatives moins coûteuses qui donnent le même type d'informations, c'est normal qu'on les garde et qu'on les utilise. Donc la médecine nucléaire conventionnelle avec des traceurs techniciens, ça a toujours sa place. D'autant plus que c'est moins coûteux en termes d'infrastructure, en termes de coûts par dose de produits utilisés. À partir du moment où on se retrouve dans des situations de vulnérabilité comme on vit à répétition depuis quelques années, c'est prudent puis logique d'investir dans des secteurs alternatifs, même s'ils sont plus coûteux, qui vont nous donner des informations non seulement équivalentes, mais même supérieures, malgré le coût.
Jean Véraud, qui est chef du service de médecine nucléaire au CHU de Sherbrooke. Alors Gaëlle, est-ce que la crise des isotopes va finalement marquer l'essor de la tomographie par émission de positrons, la TEP, même si ça coûte cher?
Bien, c'est exactement la question que j'ai posée au docteur Éric Turcotte. On va entendre sa réponse.
Si on regarde ce qui s'est passé au courant des dernières années, Sherbrooke était l'un des premiers centres TEP à opérer sur le territoire québécois et actuellement, on possède deux appareils pour pouvoir faire nos images. Et au courant des dernières années, il y a plusieurs centres TEP qui sont apparus ailleurs au Québec. Il y en a plusieurs maintenant dans la région de Montréal et le gouvernement, dernièrement, en a même déployé dans des centres hospitaliers périphériques où la radio-oncologie est disponible. Et on parle de centres hospitaliers comme Gatineau, Rimouski, Chicoutimi, donc vraiment éloignés. Donc, le fait qu'il y ait une crise, oui, c'est quelque chose qui nous donne, moi je pourrais dire, un bon air d'aller pour développer de nouveaux traceurs et tenter d'exploiter la TEP à son maximum. Le gros avantage avec la TEP, étant donné que la production des radioisotopes dépend d'un cyclotron et plutôt que d'un réacteur nucléaire, c'est beaucoup plus facile de déployer des cyclotrons que des réacteurs nucléaires. Donc, on peut facilement sécuriser l'apport en isotopes pour le Québec. Ici, on a un cyclotron. On est déjà en train de regarder pour avoir un second cyclotron sur place. Et Sherbrooke, avec deux cyclotrons, vient probablement de sécuriser 100% de l'apport en radioisotopes TEP pour le territoire québécois au complet et probablement pour l'est de l'Ontario et une bonne portion des maritimes.
Le docteur Éric Turcotte, qui est directeur du Centre d'imagerie moléculaire du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, qui a visiblement de grandes ambitions, Gaëlle.
Oui, et qui sait, l'occasion fera peut-être le larron.
Bien sûr, merci.
Je vous en prie.
Tout le monde le fait, partout, depuis presque toujours. Depuis au moins 10 à 16 millions d'années, en fait. Le rire est au cœur des recherches de Marina Davila-Ross. Et pour en tracer les origines, cette zoologiste a chatouillé puis enregistré les rires de jeunes singes et de bébés humains. Les résultats publiés dans la revue Current Biology indiquent que le rire aurait évolué d'un ancêtre commun aux grands primates. Tous ces rires ne sont pas identiques toutefois. Si les cordes vocales des orangs-outans limitent la variété des sons qu'ils peuvent émettre, nos plus proches parents, les chimpanzés et les bonobos, émettent de longues séries de petits rires, comme nous. L'équipe de l'Université de Portsmouth en Grande-Bretagne a même été surprise de constater que les gorilles et les bonobos font preuve d'un certain contrôle sur leur respiration, avec des éclats de rire jusqu'à 3 fois plus longs que la durée de leur cycle respiratoire. L'équipe de Marina Davila-Ross poursuit maintenant ses travaux en vue de déterminer la fonction du rire chez les différentes espèces, dont la nôtre.
Manger des légumes parfaits, bientôt une réalité. Des scientifiques japonais ont fait pousser dans des usines à environnement contrôlé et stérile des légumes qui pourront être mangés sans même avoir à les laver. Ces usines contrôlent tous les aspects de l'environnement. Cela va de la lumière à la température, sans oublier le degré d'humidité, l'arrosage et le niveau de CO2. Les travailleurs portent des gants, un masque et même une combinaison de protection comme on en retrouve normalement dans des usines chimiques. Toutes ces mesures empêchent, selon les scientifiques, toute contamination possible par la poussière, les insectes ou l'air. Ces usines sont par ailleurs ultra-performantes. Elles peuvent par exemple produire des laitues 24 heures par jour, 7 jours par semaine et jusqu'à 3 millions de légumes par année. Le gouvernement japonais a décidé d'encourager l'expansion de ces usines à légumes. L'idée a d'ailleurs commencé à faire son chemin dans le monde. Le Royaume-Uni, qui cultive déjà des millions de tomates hydroponiques en serre, est intéressé. À quand le sirop d'érable parfait pour le Québec?
Le Festival de sciences Eureka est de retour pour une 3e édition. De vendredi à dimanche prochain, les Montréalais qui passeront par les quais du Vieux-Port pourront s'adonner à des matchs d'improvisation scientifique, suivre le déroulement d'une enquête criminelle ou encore fabriquer leur propre pile électrique. Eureka s'ancre aussi dans l'actualité. Les festivaliers pourront tout savoir sur la technologie et le fonctionnement du Bixi, le nouveau vélo en libre-service à Montréal. Ou pourquoi pas relever le défi de l'aménagement durable d'une forêt. Depuis 3 ans maintenant, le Festival Eureka propose aux curieux une science à la fois ludique et instructive. Et signe des temps, les organisateurs précisent que les activités sont gratuites.
Ils sont bien souvent minuscules. Ils voyagent de par le monde incognito. Vous les transportez même parfois sans savoir. Mais lorsqu'ils arrivent à destination, ils font de gros dégâts. Ce sont des ravageurs exotiques et plusieurs d'entre eux menacent en ce moment même nos forêts. Une situation qui préoccupe au plus haut point des experts comme Pierre Desrochers, chef de projet en santé des forêts au Service canadien des forêts de Ressources naturelles Canada à Québec. Il est ingénieur forestier et pathologiste forestier.
Quand on parle de ravageurs, on veut dire insectes et maladies. Et dans certains cas, on va parler aussi de mauvaises herbes qui s'amènent de plus en plus en forêt. On crée avec les ravageurs exotiques un déséquilibre, alors qu'on a aussi des ravageurs indigènes. Et notre forêt est en équilibre avec les ravageurs indigènes qui sont en fait les outils de recyclage des matériaux. Mais quand on amène un ravageur exotique, on confronte nos espèces à un être nouveau pour lequel ils n'ont pas de résistance, ils n'ont pas de mécanisme de protection, ils n'ont pas évolué ensemble. Et c'est là qu'on crée un déséquilibre tel qu'on peut faire disparaître des espèces ou au moins les menacer de disparition, réduire énormément la croissance et créer des épidémies qui peuvent être assez dramatiques, qui vont changer l'environnement d'une façon générale.
Comme par exemple?
Bon, la vallée du Saint-Laurent avec la maladie irlandaise de l'orme qui est causée par un champignons pathogènes exotiques transportés par un insecte exotique. Alors, les deux ensemble ont réussi à réduire les populations d'ormes de la vallée du Saint-Laurent d'environ 600 000 arbres entre 1944, l'année de la découverte, et 1960. Imaginez les paysages qu'on ne voit plus aujourd'hui, mais toutes les terres du Saint-Laurent, vous les voyez là, en belles lanières minces comme on les a distribuées au moment de la colonisation. Et toutes ces terres-là, séparées par de belles grandes rangées d'ormes qui poussent naturellement le long des fossés. Et maintenant, qu'est-ce qu'on voit? C'est le long de la veine, un orme ici, vivant, trois ormes morts, un orme vivant, cinq ormes morts. C'est complètement différent comme paysage. Et quand on a besoin de brise-vent pour protéger les cultures, maintenant, on doit planter, alors qu'autrefois, la nature nous les donnait.
Est-ce qu'on a pu refaire le trajet inverse pour savoir d'où il venait ce ravageur, d'où il venait l'insecte vecteur, comment et surtout comment il avait réussi à entrer chez nous?
Ben, en ce qui concerne la maladie, on sait qu'elle est, ou on suppose qu'elle provient de bois de caisserie fait en orme qui a été abandonné dans le port ou autour du port de Sorel au moment où on faisait énormément de commerce, et il rentrait beaucoup de choses à Sorel. Et l'évaluation de la propagation nous laisse croire que c'est vers 1940 qu'il serait entré. Et là, il a été repris par un insecte indigène à ce moment-là. Et il nous est arrivé par le sud, le petit squelette européen de l'orme, qui, lui, n'était pas habitué à notre climat, mais s'est adapté progressivement. Et des années 60 jusqu'à maintenant, il est parti du sud de l'Ontario, il s'est rendu, maintenant il est à Québec, à Montmagny, un peu partout. Et c'est un vecteur, un transporteur très, très, très efficace, plus efficace que le squelette indigène. Alors évidemment, ça crée une situation épidémique qu'on peut contrer, mais pour laquelle il y a des coûts et pour laquelle il faut une volonté continue. Et ça serait dans le fond souhaitable de ne pas avoir à lutter contre ça. Si on avait su, pendant la Deuxième Guerre mondiale, qu'il y avait des risques et qu'il fallait prendre des moyens, protéger les forêts en réglementant le bois d'emballage, comme on fait maintenant, on aurait probablement empêché cette introduction-là.
Alors aujourd'hui, on réglemente, vous l'évoquez, Pierre Desrochers, mais ça n'empêche pas qu'on a encore de nouveaux fléaux qui nous pendent au bout du nez et qui menacent encore aujourd'hui nos forêts. Les plus dangereux ou les plus inquiétants aujourd'hui, en 2009, quels sont-ils?
Bien, je vous dirais que le plus inquiétant actuellement, parce qu'il est déjà chez nous, et que les êtres humains participent à sa propagation, c'est la grêle du frêne. Cet insecte-là se déplace normalement. Il nous arrive, en fait, d'Asie. On ne sait pas exactement comment il est entré ici dans les années 2000, mais on l'a trouvé simultanément dans des États américains limitrophes des Grands Lacs et dans le sud de l'Ontario. Et normalement, sa propagation naturelle, l'insecte qui vole, là, c'est entre 2 et 6 km par année. Or, il a fait des bonds, des sauts de géant pour se rendre à Toronto, à Ottawa, à partir du sud de l'Ontario, Windsor et ce qui est très loin, et cette année, Carignan. Et là, ce qu'on croit, c'est que ça serait probablement le transport de bois de chauffage, tout simplement, qui aurait permis, et là, c'est l'humain qui transporte le matériau infesté. Et on se dit, oups, cet insecte-là, travaille très fort, se reproduit beaucoup et pourrait faire disparaître les frênes du territoire canadien si on ne prend pas des moyens pour l'en empêcher.
Est-ce qu'il y a des conséquences économiques, entre autres, mais également du point de vue environnemental? On perd de la biodiversité, on perd des revenus.
On perd de la biodiversité. Ça a des conséquences directes sur la vie des humains en ville. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de rues en milieu urbain sont plantés avec des frênes verts qui s'adaptent très bien à toutes les conditions difficiles des milieux urbains. Et c'est une des essences que la grêle du frêne préfère. Alors, ça a des conséquences directes donc sur les habitants de ces rues-là, mais ça a aussi des conséquences sur la forêt feuillue qu'on exploite et dont on tire, entre autres, du bois de déroulage. Et le frêne est une des espèces qui produit du beau bois pour faire du déroulage, du contreplaqué, des meubles de qualité avec ce plaquage-là, des panneaux de qualité, du bois de plancher, des bâtons de baseball, des bâtons de hockey. Il y a des emplois liés à ça. Il y a des gens qui en vivent. Alors, si on a moins de frêne, on est obligé d'aller chercher d'autres sources, de changer la façon dont l'industrie fait son travail, de changer la façon dont le travail se fait, ça veut dire de changer, d'avoir un impact sur l'être humain qui le fait aussi, de changer le marché, d'avoir des nouveaux produits. Et tout ça, ça crée des remue-ménages qui ont un impact sur les êtres humains autant que sur la nature.
Un triste constat fait par Pierre Desrochers, chef de projet en santé des forêts au Service canadien des forêts, qui s'inquiète de l'impact donc de la grêle du frêne, qui est un minuscule coléoptère d'à peine 1 cm de long venu d'Asie et repéré pour la première fois chez nous en 2002. Alors, l'insecte ne pose aucun problème dans des pays comme la Chine, où il vit en harmonie avec la nature,
mais il en va tout autrement quand il arrive chez nous où il fait des ravages. Un fléau qui se répand à vitesse grand V, à cause principalement, M. Desrochers l'évoquait, des humains qui transportent bien souvent sans le savoir du bois d'emballage, du bois de chauffage ou des produits de pépinières infestés. La grêle du frêne a frappé cette année à Carignan, sur la rive sud de Montréal. Auparavant, il avait fait des siennes dans le sud-ouest de l'Ontario, la grande région de Toronto, plus récemment dans la vallée de la Gatineau. Et même que l'Agence canadienne d'inspection des aliments a annoncé pas plus tard que cette semaine que l'insecte s'attaque aussi présentement à des arbres dans la vallée du Niagara. C'est cette agence qui surveille de très près la progression des insectes ravageurs chez nous. Louis-Philippe Vaillancourt y est agronome et spécialiste du programme en foresterie, où il s'occupe plus spécifiquement de la grêle du frêne. Il nous explique ici comment l'arrivée de la grêle du frêne à Carignan a pu être constatée l'été dernier.
C'est un membre du public ou un privé, un professionnel de l'arboriculture qui avait suivi une formation par l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Et à ce moment-là, il était en mesure de faire le diagnostic des arbres au niveau de la grêle du frêne à Carignan. Une résidente avait un problème avec ses frênes et a demandé à ce professionnel-là de venir les observer. Et lui, il a remarqué la présence de l'insecte qui l'avait associé à l'insecte de quarantaine pour lequel il l'avait assisté lors de notre kiosque. Et à ce moment-là, il a fait une déclaration à l'agence et on a fait le suivi.
Quel genre de suivi on fait quand on a un cas comme ça rapporté?
Ce qu'on fait, c'est qu'on fait une délimitation de l'infestation, c'est-à-dire qu'on observe les arbres qui sont infestés, on divise le territoire en blocs ou en quadras qu'on inspecte de façon systématique au terrain. Tous les arbres ont été vérifiés dans un rayon d'environ 5 km à Carignan. Les inspecteurs se déplacent. À chaque jour, ils partent avec une carte qui a été fournie par nos techniciens en géomatique. Donc, systématiquement, ils voient tous les arbres sur le terrain. Ils sont en mesure de tous les inspecter. Et ça semble gros, ça semble intense. C'est des opérations qui nous ont nécessité 12 personnes pendant un mois et demi consécutif. Et par la suite, ce qu'on a fait, c'est une enquête en dépisteur, en éclaireur, en véhicule sur un rayon de 15 km. Donc, on est quasiment jusqu'au fleuve Saint-Laurent à Longueuil. Et l'infestation qu'on a observée est circonscrite à Carignan, sur l'île Goyer et l'île de Merce à Carignan.
Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a vu quel était le territoire où les arbres étaient contaminés?
À ce moment-là, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on émet des avis d'interdiction de déplacement. On donne des documents qui découlent de notre réglementation et ces documents-là interdisent aux propriétaires pour lesquels ils ont des arbres positifs ou suspects de les sortir de leur propriété, c'est-à-dire de les envoyer ailleurs, d'un site de disposition ou de les transporter carrément comme bois de chauffage. C'est interdit par la loi. Donc, les sanctions qui s'appliquent si jamais les gens contreviennent, mais de façon générale, ça collabore bien. Donc, on émet ce type d'interdiction-là puis il va y avoir l'émission d'un arrêté ministériel. C'est un document qui est signé par le ministre de l'Agriculture au fédéral, qui circonscrit une zone, il l'a définie comme étant infestée. Et à ce moment-là, les mêmes restrictions qui s'appliquaient avant au terrain, la personne qui empêchait son matériel de sortir, à ce moment-là, s'applique à l'ensemble du territoire. Donc, il y a possibilité de bouger le matériel de terrain en terrain, mais toujours à l'intérieur de la zone de quarantaine qui est définie.
Est-ce qu'on coupe les arbres?
Les arbres ont été coupés à Carignan en collaboration avec le ministère des Ressources naturelles et de la Faune, le MAPAC et le ministère des Affaires municipales et régionales. Donc, ces arbres-là ont été coupés dans un effort de diminuer la population. Donc, ce n'est pas de l'éradication qu'on fait, c'est diminuer la population pour ralentir la propagation et surtout, majoritairement, pour générer des arbres à nos scientifiques du Service canadien des forêts pour permettre de faire de la recherche.
La recherche qui est en laboratoire va permettre de voir comment se comporte le parasite et comment on peut peut-être l'éliminer.
Exactement. Développer des solutions, développer des outils. Parce que le ravageur, quand il a été découvert en 2002 à Windsor, il y avait deux articles scientifiques seulement qui avaient été publiés en chinois sur la taxonomie de l'insecte. Donc, c'était des articles très généraux qui ne nous permettaient pas de développer des outils de lutte. Par contre, depuis 2002, il y a plus d'une centaine de papiers qui ont été publiés et qui permettent maintenant d'envisager des solutions, entre autres en recherche, en lutte biologique, avec des ou ce que les travaux sont menés au Québec en des bio-insecticides.
Est-ce qu'il est possible, bon, quelqu'un l'a identifié à Carignan, est-ce qu'il pourrait être ailleurs sans qu'on le sache? Ou est-ce qu'il est pas sûrement ailleurs, même si on ne le sait pas?
Il est probablement déjà établi ailleurs, sans qu'on le sache. Comme je l'ai expliqué, avant 2002, l'information était très limitée. Donc, les outils de dépistage qui sont disponibles à l'agence sont limités aussi. On fonctionne sur le dépistage visuel. On a habituellement 2 ans, 3 ans de retard sur l'insecte. Donc, il est facile de penser qu'il y a certaines zones présentement au Québec ou en Ontario qui sont infestés, pour lesquels on n'a pas d'informations et qu'il y a eu un transport de matériel qui s'est fait. Donc, ce qu'on fait, c'est que lorsqu'on est conscient, on prend les mesures pour empêcher la propagation accrue, mais effectivement, il y a probablement certains sites au Québec qui sont infestés pour lesquels on n'est pas au courant.
Bien, merci beaucoup.
Un plaisir.
Louis-Philippe Vaillancourt de l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Alors, depuis quelques mois, les arrêtés ministériels se multiplient afin d'interdire le transport de bois à l'extérieur des zones mises en quarantaine afin d'endiguer la progression de la grêle du frêne. Monsieur Vaillancourt évoquait également la coupe d'arbres contaminés qui fournit aux scientifiques de précieux spécimens. Eh bien, justement, les quelques 150 arbres coupés un peu plus tôt cette année à Carignan ont permis à des entomologistes comme Robert Lavallée du Service canadien des forêts à Québec de poursuivre ses analyses. Il décrit ici les ravages faits sur une de ces bûches qu'il avait apportée avec lui pour une petite démonstration lors d'un récent colloque sur les ravageurs exotiques forestiers.
Là, ici, on a une bûche qui a été extraite d'un frêne qui a fait partie du projet d'abattage de Carignan. Et ce que vous voyez, c'est un arbre qui a peut-être une vingtaine d'années. Là, on voit les cernes annuelles. Et puis, ce que vous pouvez voir, évidemment, l'écorce a été retirée. Et puis, vous voyez les sculptures absolument splendides sur le bois. Et c'est pas des sculptures indiennes, absolument pas. Là, c'est l'insecte lui-même qui a gravé sa trace dans le bois en se nourrissant. Donc, l'insecte vit en interface entre le bois et l'écorce. Se nourrit de la partie vivante, enlève la couche de cambium, donc tue l'arbre automatiquement parce que l'arbre, la seule couche qu'il y a de vivant, c'est le cambium. C'est une seule assise de cellules. C'est très fragile. Hein? Et les insectes, lorsqu'ils sont très nombreux, vont finir, évidemment, regardez, ça a été complètement annulé, tout ça. Et chacun des sillons représente le développement d'une larve. Et là, on devine qu'il y en avait des centaines qui se sont croisées. Et si on regarde plus en détail, d'un côté du tronc, les sillons sont beaucoup plus petits. Ça veut dire que les œufs ont été pondus sur un côté. Les larves se sont développées, se sont dirigées vers l'autre côté, peut-être pour fuir le soleil trop chaud, mais on sait que c'est un insecte qui aime la chaleur. Et finalement, a complètement tué l'arbre. Et ça s'est passé pendant 15 ans, là. C'est en l'espace de 2 ou 3 ans. C'est absolument catastrophique comme impact. Comment est-ce que ça peut être rapide comme insecte, en fait, de facteur de mortalité?
Ça a l'air un peu de la pyrogravure.
Exactement, oui, c'est ça que je vous disais, le hand carving, là, comme on voit souvent, là, on dirait la pyrogravure, effectivement. Et puis, le moule, vous l'avez dans les deux dimensions. Si vous regardez l'écorce, vous avez l'image miroir qui a été faite. Ici, d'ailleurs, vous avez les galeries, on va appeler ça des galeries larvaires, qui ont été faites. Donc, si je vous ramène au niveau du cycle, la femelle a pondu ses œufs sur l'écorce. Les œufs, on ne peut pas vraiment les voir. C'est à peine 1 mm, puis c'est caché. Les larves, aussitôt que les œufs éclosent, les larves vont percer l'écorce, puis s'en vont directement à l'assise cambiale, entre le bois et l'écorce, commencent à se nourrir. Puis ils font un dommage qui est très typique. C'est pour ça que le grand public peut jouer un rôle pour l'identification de cet insecte-là. Moi, je considère qu'il n'est pas difficile à identifier. Regardez la bûche qui est devant vous. Vous voyez un sillon qui est en forme de S. Ici, on voit que la galerie larvaire est beaucoup plus petite. Puis à mesure que la larve grossit, change de stade, bon, évidemment, elle a un diamètre plus large, puis la galerie grossit. Et ça, c'est une galerie vraiment typique en forme de S, là, en quinconce, là, on va d'un côté puis de l'autre. Et l'insecte, finalement, là, au moment où on l'avait ici en laboratoire à Sainte-Foy, l'insecte était ici présent. Là, il a passé l'hiver à ce stade-là. Donc, c'est une silhouette qui est très caractéristique de la grêle du frêne. Pour ça qu'on peut l'identifier.
Mais dans la forêt, il y a l'écorce par-dessus, comment on fait?
Bien, c'est ça. L'écorce, elle est par-dessus. Donc, il y a d'autres, il y a des critères, il y a des symptômes qui vont vous aider à voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que lorsque l'insecte passe sous l'écorce, en se nourrissant, il tue l'écorce. Donc, l'arbre continue sa croissance. Imaginez que l'attaque est localisée à cet endroit-là. Et imaginez la grosse bûche, ça va être plus facile à comprendre. Donc, l'attaque est localisée à un endroit. La croissance de l'arbre se fait, mais l'écorce, elle est morte. Donc, en accroissement en diamètre, on va voir apparaître une fissure. Et ça devient comme le premier critère aux gens pour l'Agence canadienne.
Des fissures verticales, donc.
Des fissures verticales, c'est ça, d'écorce là, qui se fendit. Puis si vous l'arrachez, vous allez voir une belle galerie larvaire qui va passer. Donc, c'est comme un indicateur. En plus, les frênes qui sont affectés par la grêle ont tendance à donner soit du rejet racinaire, des pousses qui vont pousser au niveau des bourgeons adventifs sur le tronc, donc des pousses qui ne sont pas normales, ou au niveau du racinaire, des croissances qui sont exagérément développées. Donc, encore là, qui sont des indicateurs que l'arbre n'est pas en santé, qu'il y a un problème. Mais il reste que ce n'est pas facile à reconnaître dans le sens quand c'est en début d'infestation, mais un petit peu plus tard, ça l'est. Et puis, si les gens voient au niveau de leur écorce, de toute façon, l'écorce qui se fendille, c'est une écorce qui est morte, là, donc il ne faut pas gêner pour aller fouiller. Et si on voit une galerie qui est en forme de sinus comme ça, de S, on a une très bonne indication que c'est possiblement de la grippe du frêne, évidemment. Les trous en forme de D, typiques au buprès, quand ils émergent, ils font un trou qui a la forme d'un D. Donc
les insectes sortent?
Lorsque les insectes émergent, justement, comme au mois de mai, là, donc ils font un trou d'émergence qui est en D. Vous pouvez le voir sur les écorces qui sont ici. Donc, ça devient comme des critères d'identification pour aider, justement, à dépister. Mais au travers de tout ça, je le répète, on est en retard sur l'insecte. Quand on voit ça, il est parti ailleurs. Il peut en rester, évidemment, là, donc c'est une bonne chose de les détruire. Et c'est ce qui s'est passé à Kerignan. Donc, ce sont des arbres. Comme vous voyez, ces arbres-là n'avaient pas été abattus. En bon français, il y avait du monde là-dedans. Là. Donc, ça fait encore des centaines, voire des milliers d'insectes qui se seraient répandus dans l'environnement immédiat. Et puis là, ben, on fait juste l'aider, quoi.
Robert Lavallée, entomologiste au Service canadien des forêts, qui cherche à développer en laboratoire des outils de lutte biologique contre la grille du frêne. Entre autres, grâce à des champignons indigènes capables de détruire le ravageur. Une autre piste d'intervention, c'est de déceler plus rapidement la présence de la grille du frêne. Et à cet égard, des chercheurs de l'Université de Guelph, en Ontario, étudient depuis quelques années comment une guêpe indigène, de son nom scientifique Cerceris fumipedis, peut aider les inspecteurs à détecter plus rapidement la présence de la grille du frêne. La grille du frêne n'est qu'un des ravageurs exotiques qui menacent nos forêts, il faut le dire. Parmi ces nouveaux arrivants, mentionnons entre autres le longicorne brun de l'épinette, le longicorne asiatique, l'encre du chêne rouge, le nématode du pin, le cyrex européen du pin. Et c'est sans compter tous ces autres dont on ne soupçonne même pas l'existence. D'ailleurs, pour mieux prévenir les coups, les scientifiques vont même à l'étranger voir comment nos arbres, plantés là-bas, cohabitent avec les espèces indigènes de Touraine. Il faut dire qu'avec la multiplication des échanges commerciaux, les scientifiques sont plus que jamais vigilants. Est-ce à dire que les ravageurs exotiques menacent de plus en plus nos forêts? Le mot de la fin à Pierre Desrochers, chef de projet en santé des forêts au Service canadien des forêts de Ressources naturelles Canada à Québec.
On est dans un monde de mondialisation, on est dans un monde où on fait de plus en plus de commerce, donc on a de plus en plus de risques d'introduire du matériel qui soit infesté. Cependant, on est aussi de plus en plus conscient, de plus en plus de gens qui sont attentifs à ce qui se passe et on a adopté et adapté des réglementations pour se protéger de ces dangers-là. Et je peux vous dire que le Canada a été très actif pour la norme internationale de mesures phytosanitaires numéro 15 qui nous protège des ravageurs introduits par les bois d'emballage et d'arrimage. On a été parmi les premiers à mettre en place une norme du genre dans le cadre de l'Organisation nord-américaine de protection des plantes et c'est cette norme-là qui a été poussée, mise de l'avant, qui est devenue une norme internationale. Et ça, chaque pays voulant protéger ses ressources, tout le monde est très proactif pour dire on va prendre des moyens et quand on a une connaissance nouvelle, on la partage pour s'assurer que tout le monde se protège.
Bien, je vous remercie beaucoup, Pierre Desrochers.
Ça me fait plaisir.
Tout autre sujet maintenant. Alors, vous êtes-vous déjà demandé comment fonctionne vraiment ce photocopieur qui vous fait perdre patience lorsqu'il se coince au bureau? Et votre détecteur de fumée, vous croyez le connaître dans tous ses détails? Et puisqu'on y est, pourquoi votre lecteur de CD ignore-t-il, fort heureusement pour vous, les traces de doigts laissées par le petit dernier sur votre CD préféré? Eh bien, ce genre de questions vous tient peut-être, qui sait, réveillé la nuit. Et en fait, même si ces questions ne vous ont jamais effleuré l'esprit, vous apprécierez fort probablement le livre « La physique par les objets quotidiens » paru aux éditions Belin pour la science. Cédric Rey co-signe l'ouvrage avec Jean-Claude Poisat, un autre physicien de l'Institut de physique nucléaire de Lyon. Ensemble, ils ont exploré notre quotidien pour débusquer et décortiquer les principes physiques qui se cachent derrière tous ces objets qui nous entourent. Mais leur livre offre également beaucoup plus. Il raconte en quoi la vie d'aujourd'hui exige de nous un minimum de culture physique, comme en témoigne d'ailleurs cet entretien de Sophie-André Blondin avec un des auteurs, le physicien Cédric Rey, qu'elle a convié dans notre studio de Paris.
Cédric Rey, bonjour.
Bonjour.
Avant de parler des objets de notre quotidien, est-ce qu'on peut parler un peu de votre quotidien à vous, monsieur Rey, comme physicien? Quels sont vos domaines de recherche?
Alors, mes domaines de recherche sont doubles, en fait. J'ai une partie de ma recherche qui est plus fondamentale sur l'interaction ion-matière, donc ça n'a peut-être pas beaucoup parlé. Et c'est comment interagissent les ions, donc les atomes qui ont été ionisés avec la matière, donc voir en particulier des interactions qu'on ne verrait pas d'habitude. Et puis j'ai un aspect recherche sur le développement d'outils pour la hadronthérapie, c'est une technique pour soigner les cancers avec des ions carbone. Donc là, on retrouve le thème des ions et de l'interaction avec la matière. Mais là, c'est vraiment une recherche très appliquée pour en fait améliorer les techniques de hadronthérapie, en fait pour contrôler la dose qu'on va mettre lors d'une séance de hadronthérapie.
Alors, une physique qui reste concrète quand même, on n'est pas dans la théorie de la physique. C'est important pour vous de lier la physique à une application pratique?
Oui, en fait, on a ce double aspect qui est intéressant, c'est-à-dire l'aspect fondamental. Donc, c'est pas théorique, c'est appliqué dans le sens, enfin, c'est expérimental et puis fondamental. Et puis, c'est intéressant effectivement d'avoir une application directe, en plus très sociétale, puisque ça va permettre d'améliorer les traitements pour le cancer à long terme. Très long terme, d'ailleurs.
mais la recherche, c'est ça. Il faut voir loin. Et souvent, quand on parle aux scientifiques et aux chercheurs, ils nous disent plus on se spécialise, plus pour nous, ça devient intéressant parce qu'on ne fait que ce qui nous intéresse. Pourtant, vous gardez un pied dans la physique très générale, très vulgarisée, avec l'apparition de ce livre, entre autres, La physique par les objets du quotidien. Pourquoi garder ce côté très général, très vulgarisation?
Bien, ça, c'est l'aspect enseignement, puisque je suis maître de conférence et donc la moitié du temps, je suis chercheur et l'autre moitié du temps, je suis enseignant à l'université. Et en fait, cet aspect de physique générale, on l'a à travers l'enseignement, puisqu'on va enseigner la physique générale. Et il se trouve que j'ai, il y a quelques années, créé un cours donc sur les objets du quotidien et c'est ce qui m'a amené à écrire ce livre par la suite. Donc, c'est vraiment ce lien... C'est mon double métier, en fait, si vous voulez.
Ces objets du quotidien, on va en parler, puisque le livre s'intitule « La physique par les objets du quotidien ». C'est aux éditions Belin pour la science. On oublie peut-être trop facilement toute la science qu'il y a derrière les petits objets qui nous entourent?
Oui, je trouve que c'est pour ça que j'ai conçu cette approche comme ceci. C'est important, à mon avis, de se rappeler que tout notre environnement quotidien est truffé de physique et de science de partout. En fait, c'est la science qui explique et qui a permis le développement de tout ce qu'on utilise actuellement.
Alors, il y a de la science, par exemple, dans une petite ampoule à incandescence. De la science, on s'en doute un peu plus dans le GPS. De la science dans notre réfrigérateur. De la science dans le réacteur nucléaire, qui peut être un objet du quotidien chez les Français, qu'il est un peu moins ici. Du petit au grand objet qui nous entoure et qui fait partie de notre quotidien. Vous êtes allés, vous en avez choisi quelques-uns. Comment vous les avez choisis?
Alors, en fait, le choix... C'était pour répondre à une contrainte d'explication de la physique, puisque je voulais essayer, avec mon collègue, on voulait essayer de trouver des sujets qui permettent, donc qui soient des objets intéressants, ça c'est une première chose, donc qui nous semblerait intéressant d'expliquer aux gens et qui leur parlent, mais aussi certains objets qui permettent d'ouvrir vers une large gamme de physique. Donc on ne pouvait pas mettre des objets, par exemple, qui auraient eu les mêmes fondements physiques dans deux fois dans le livre. Donc on a essayé de vraiment choisir ces objets pour qu'ils couvrent un domaine très large de physique. Et avec ça, on couvre pratiquement une bonne partie du programme de lycée, même de première année d'université, tout en restant à un niveau beaucoup plus... général, enfin, grand public.
Et justement, ces niveaux-là, ces multiples niveaux-là, vous les gardez présents tout le long. Vous parlez du lycée, de l'université, du grand public. Il y a plusieurs niveaux de sciences et de technologies aussi dans les objets. Et ça, vous avez soin à chaque chapitre, à chaque objet, de les garder intacts, ces niveaux-là. On peut aller chercher ce qu'on veut au niveau qu'on choisit.
Oui, c'est pour ça qu'on a essayé de construire avec un encadré physique, pour les personnes qui voudraient aller plus loin un petit peu en physique, et puis des encadrés aussi analogiques qui permettent de comprendre un petit peu les concepts plus facilement, avec des analogies qui forcément ont des limites, mais qui permettent, à mon avis, bien comprendre le fonctionnement fondamental de l'objet.
Et quand on lit ce livre, quand on le parcourt, il y a des choses qui nous paraissent soudainement plus simples, mais aussi on se rend compte qu'il n'y a rien de simple dans la vie et qu'un objet mène à un autre, qui mène à un autre. Je donne un exemple, par exemple, dans votre livre, que j'ai pris dans votre livre. Via l'effet piézoélectrique, la montre à quartz nous mène à l'allume-gaz qui, lui, nous mène aux manettes de jeux vidéo. Il y a comme ça des trajets, des chemins qui se font.
Oui, tout à fait. C'est... Des effets, en fait, peuvent se retrouver dans plusieurs objets. Et c'est vrai qu'après, donc, il y a une foire aux questions pour essayer d'ouvrir, pour essayer de montrer que d'autres objets utilisent ces effets-là, cette physique-là. Et que l'idée, c'est aussi d'avoir une culture de la physique, comme on a une culture cinématographique, afin de pouvoir, par la suite, essayer de décortiquer, de comprendre un petit peu mieux tous les autres objets de notre quotidien. Donc de l'allume-gaz aux manettes de jeux vidéo, mais en passant par
la montre à quartz.
La montre à quartz ou d'autres sujets.
Et tout ça, évidemment, bon, je ne vais pas essayer d'expliquer, mais tout ça est lié par cet effet piézoélectrique.
Oui, c'est l'effet de base physique.
Et pour le comprendre, il faut lire la physique par les objets du, les objets du quotidien.
En un mot, c'est la propriété qu'a un cristal, lorsque on le compresse, il va produire une tension électrique. C'est ça l'effet piézoélectrique, c'est-à-dire quand on compresse un cristal, on peut obtenir une tension électrique à ses bornes, et ça permet de faire beaucoup de choses, des capteurs, des moteurs pour des très précis, etc.
Alors c'est ça, d'où la montre à quartz, c'est la manette de jeux vidéo, ce sont ces capteurs qui nous permettent par exemple de boxer contre notre écran parce que ça détecte le mouvement des manettes dans l'espace.
Et puis par exemple, certaines balances ou certains moteurs utilisent aussi ces mouvements très précis, ou alors on peut les retrouver dans certaines cartouches d'encre qui utilisent l'effet piézoélectrique inverse pour produire des petites gouttelettes d'encre.
Et parmi les objets, j'en ai nommé quelques-uns avec l'ampoule, le GPS, le réfrigérateur, le réacteur nucléaire, il y a aussi l'imprimante. Avant de se fâcher contre notre imprimante quand elle fait la grève, il est intéressant d'aller voir un peu comment elle fonctionne et d'où viennent certains problèmes.
Oui, le photocopieur et donc l'imprimante laser qui sont pratiquement le même principe. En fait, on se rend compte que, alors c'est des principes qu'on connaît, c'est-à-dire que des charges de signes opposés s'attirent, et ça, on connaît ça depuis souvent l'école maternelle, peut-être pas maternelle, mais en primaire, et c'est vrai que cet aspect-là de physique très simple, que ça a même été chanté, hein, les opposés, les contraires s'attirent et les opposés se repoussent,
oui.
Eh bien, c'est les principes de base qui sont à l'œuvre dans une photocopieuse, par exemple, et c'est ce qui permet d'expliquer pourquoi, par exemple, certaines fois, on a l'odeur du photocopieur près du photocopieur, mais pourquoi parfois, tout le temps même, la feuille ressort chaude parce qu'il a fallu faire fondre l'encre, etc. Donc, c'est tous ces aspects-là qui sont très, très intéressants, à mon avis.
Vous avez parlé tout à l'heure et vous l'avez glissé le terme et vous l'expliquez aussi, cette culture physique. Bon, quand on dit culture physique, la plupart des gens pensent que c'est de l'exercice pour les muscles. Mais pour vous, il s'agit d'une toute autre culture.
Oui, je crois qu'il est nécessaire dans le monde dans lequel on vit, c'est-à-dire entouré de technologies, utilisant la technologie quotidiennement, que, on puisse comprendre, alors je ne dis pas que tout le monde devienne physicien, puisque c'est pas. C'est, d'abord, il y a plein de gens que ça n'intéresse pas, mais que de la même manière qu'on a une culture en cinéma, en littérature, etc., que les gens puissent acquérir, donc qu'on leur mette à disposition une espèce de culture physique pour qu'ils puissent comprendre ces objets qui les entourent et ne pas être effrayés, ne pas, des fois, diaboliser ces objets et surtout, même parfois, mieux les utiliser.
Diaboliser des objets, bon, être plus patient, mieux utiliser les objets de notre quotidien, c'est une partie de la vie. L'autre partie de la vie, on la passe aussi comme citoyen. Est-ce que cette culture physique, vous considérez qu'elle devient nécessaire pour que nous soyons des citoyens compétents aussi?
Je crois qu'effectivement, il y a beaucoup de questions avec l'évolution des sciences actuellement qui viennent. Et pour pouvoir ne serait-ce que savoir se poser les bonnes questions, il est nécessaire des fois d'avoir cette culture scientifique. Je pense à tous les problèmes de société. Avant de pouvoir même, ne serait-ce qu'avoir une opinion, je dirais, un petit peu éclairée sur un sujet, il est nécessaire de comprendre un minimum le sujet. Et c'est vrai que parfois, c'est difficile, parce que ce sont des sujets très très complexes. Et je crois que cette culture-là peut manquer à certains moments chez le citoyen, qui devient aussi parfois politique et qui peut prendre des décisions importantes.
Alors, on peut croire donc un livre comme La physique par les objets du quotidien, c'est une des étapes, un des instruments qu'on peut avoir pour se réconcilier avec certains concepts.
Je l'espère, mais c'est vrai que l'idée, c'est effectivement de montrer que la physique, d'abord, c'est utile, ça sert partout, et puis c'est intéressant, c'est pas une matière. Parfois, les gens sont un peu effrayés parce qu'ils ont des mauvais souvenirs de lycée et que... En fait, ils ont une mauvaise image, peut-être à cause de l'enseignement, mais ils ont une mauvaise image de cette matière, alors que, en fait, la physique, c'est vraiment comprendre le monde, c'est comprendre comment marche le monde et donc les choses qui nous entourent.
Alors, pour lire tout ça et comprendre ce qui nous entoure, je répète aux auditeurs que le livre s'intitule « La physique par les objets du quotidien ». C'est publié aux éditions Belin pour la science. Vous en êtes le co-auteur Cédric Ray avec Jean-Claude Poisat. Et je répète que vous êtes maître de conférence à l'Université de Lyon, chercheur à l'Institut de physique nucléaire de Lyon, toujours, du CNRS en France. Merci beaucoup.
Merci.
C'est de conclure l'émission sans vous, Jean-Claude Langrand. Alors, qu'est-ce que vous avez pour nous ce soir à part quatre chemins?
Eh bien, on va parler, entre autres, du capitalisme qui est en panne. Je pense que je ne vous apprends rien. Mais quelqu'un a-t-il une alternative à proposer? Tout est là. À la prochaine.
Rendez-vous ce soir, 20h, à la première chaîne. Merci, Jean-Claude Langrand. C'est donc ainsi que se termine cette édition des Années-Lumière réalisée par Dominique Lapointe avec à la technique Nathalie Lussier. Y ont collaboré cette semaine les journalistes Sophie-André Blondin, Hugues de Roussan et Gaëlle Lucia Berdoux, de même que notre chroniqueur invité Yves Gingras, historien et sociologue des sciences. Le journaliste au site Internet s'appelle Louis-André Bertrand. D'ailleurs, je vous invite à consulter notre site pour y écouter en archive nos émissions, celles-ci, mais également des émissions antérieures. L'adresse est le www.radio-canada.ca/lumière, sans accent au singulier. Donc, www.radio-canada.ca/lumière pour toutes nos émissions en ligne, en balado-diffusion et ainsi de suite. Je vous remercie d'avoir été des nôtres cette semaine. Ici Chantal Srivastava, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition des Années-Lumière. Au revoir.